Voilà. Donc après cette micro-migration, nous avons trouvé refuge dans cette salle un peu plus adaptée à notre nombre. Notre soirée va donc se dérouler en deux temps. Un premier temps où nous prendrons la parole, tous les trois, d'abord moi-même, puis ensuite Geneviève Jacques et puis ensuite Véronique Albanel, chacun pendant 10-15 minutes. Et ensuite, ce sera le moment d'un échange avec vous. Donc nous rentrons dans le vif du sujet. La fraternité bafouée, sortir de la peur du grand remplacement. Le titre de l'ouvrage dit l'essentiel de la thèse. La fraternité, qui est constitutive de la devise républicaine, est aujourd'hui bafouée. Alors, c'est pourtant le moment où le Conseil constitutionnel a érigé la fraternité au rang de principe constitutionnel, le 6 juillet dernier, au même titre que la liberté et l'égalité. Et nous le savons, le Conseil a pris cette décision après avoir été saisi de questions posées par Maître Spinozzi, qui était l'avocat de Cédric Héroux et de Pierre-Alain Manoni, qui était condamné pour avoir, pour l'un, aidé des migrants à passer la vallée de la Roya et les avoir hébergés, et pour l'autre, pour avoir pris des migrants dans sa voiture. Alors, en trois chapitres incisifs, Véronique Albanel cherche et trouve comment renouer avec la fraternité. Alors, dans le premier chapitre, elle montre comment la fraternité, aujourd'hui, est en difficulté à cause, notamment, d'une peur. Il y a une peur de l'étranger, et cette peur n'est pas nouvelle, puisqu'elle montre bien que dès la Grèce, dès le 5e siècle avant notre ère, cette peur a fait basculer toute une société de l'hospitalité, qui était pourtant une valeur sacrée, à l'hostilité envers l'étranger. Et aujourd'hui, cette même peur est là. Et renouer avec la fraternité va supposer déjà de regarder cette peur, de la recevoir et peut-être déjà de l'apaiser en proposant un minimum de sécurité. Mais l'ensemble du livre va montrer que c'est loin d'être suffisant. C'est loin d'être suffisant parce que il y a des thèses, et le livre courageusement prend en compte quelques-unes de ces grandes thèses qui alimentent la peur et qui font que la fraternité est bafouée. Alors, dans le premier chapitre, une première thèse est affrontée, c'est celle qui est présentée dans le titre de l'ouvrage, « La peur du grand remplacement ». Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, je la résume brièvement, mais Véronique pourra la reprendre et la préciser. C'est la thèse selon laquelle l'islam, qui alors est vu comme une religion étrangère et violente, serait en train de prendre la place du christianisme, qui est une religion comprise comme française, locale et paisible. Voilà la thèse présentée brièvement. Alors cette thèse s'alimente d'analyses catastrophiques comme celle que rappelle Véronique Albanel de Guillaume Cuchet dans son livre « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ?». Alors il part d'un constat qui est tout à fait juste, de l'effondrement du nombre de baptisés en France depuis 1960. La difficulté tient dans les conséquences que l'on tire de ce constat et son interprétation. Alors il y a d'abord un raccourci problématique qui nous fait poser une équivalence. Diminution du nombre de baptêmes égale disparition du christianisme. Alors, quand on y réfléchit, les choses sont effectivement beaucoup plus complexes que ça, puisque la modernité, pour ne dire que ça, a, a fait rentrer une certaine forme du christianisme en crise. Mais il y a aussi indéniablement d'autres figures du christianisme qui sont en train d'émerger, parfois dans la douleur d'ailleurs. À quoi on peut ajouter que l'islam est soumis aux mêmes défis de la modernité. Donc dire que le christianisme laisserait une place vide, que l'islam viendrait rentrer, n'a guère de sens. Un autre aspect que Véronique Albanel rappelle, qui est bien de rappeler, c'est que la crise que le christianisme traverse n'a rien à voir avec l'immigration. C'est ce genre d'évidence qu'il est important de rappeler pour percer ces bulles, ces hypothèses qui circulent. Alors le deuxième chapitre du livre est tout aussi passionnant parce que il montre que cette thèse du grand remplacement ne vient pas de rien. Elle vient d'un certain nombre d'idées qui sont sous-jacentes. Et ces idées font que la fraternité n'est plus seulement vue comme une sorte d'idéal naïf, un peu dangereux, mais devient carrément quelque chose d'impossible. Alors ces deux idées, la première c'est la thèse du choc des civilisations. Et la deuxième c'est cette discrimination entre amis et ennemis. Penser ces deux impensés, c'est, comme le fait Véronique Albanel, c'est nous permettre de les réfuter et de retrouver la fraternité comme une possibilité. Non seulement une possibilité, mais une possibilité fondatrice de notre vie ensemble. Alors je ne reprends pas maintenant l'argumentaire que le livre avance, que je vous laisserai découvrir, qui est vraiment très, très précis et bien argumenté. Je reviens simplement sur un élément qui vient confirmer l'argumentaire du livre sur le choc des civilisations. Alors cette thèse avancée par Samuel Huntington en 96 suppose que on considère chaque civilisation comme homogène. À l'encontre de cette thèse, Véronique Albanel cite par exemple Martha Nussbaum qui dit que si choc il y a entre des civilisations, ce choc, il se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous, d'abord. Et je cite simplement en complément Paul Ricoeur, qui dans un livre paru en 1960, qui s'appelle « La symbolique du mal », il nous rappelait que la culture en Occident, et la philosophie en particulier, n'a rien d'homogène. Elle commence certes à Athènes, et elle se déploie en dialogue avec Jérusalem, puis elle continue son dialogue avec Rome, puis de loin en loin avec Pékin, avec Delhi, voilà. Donc ce choc des civilisations est en fait une très longue histoire des rencontres entre civilisations qui nous traverse et qui continue en train encore de nous traverser et qui fait la richesse et la vitalité de nos cultures. Alors, sur la discrimination entre amis et ennemis, je vous conseille vraiment les pages de démontage de l'argument de Carl Schmitt sur cela, notamment son analyse de aimer vos ennemis dans Matthieu. Et puis aussi les superbes références à Eti Ilsum, qui sont une magnifique antidote à cette pensée. Alors une fois la peur déjouée et ses impensés critiqués, il est possible de retrouver la fraternité comme ce qui nous fonde. Et c'est le troisième chapitre du livre, le dernier, qui débute avec une citation de Victor Hugo, qui est magnifique. Je vous cite simplement une phrase. « Nous sommes frères par la vie, égaux par la naissance et par la mort, libres par l'âme. » La thèse est là. « Nous sommes frères par la vie. » La fraternité, c'est le fait d'être en vie ensemble. C'est une thématique très arendtienne, le fait d'être en vie ensemble. Mais la fraternité va plus loin. Elle est capable de guérir des blessures, de réconcilier des communautés, des traditions, des religions. Alors, le livre montre bien que c'est un chemin difficile, semé d'embûches, risqué. Mais c'est un chemin possible. Il y a des solutions, il y a des possibilités, et c'est l'occasion de retrouver un peu plus de notre liberté et de notre liberté de mouvement. Alors si je devais retenir une leçon de ce troisième chapitre, c'est celle-ci. La fraternité s'apprend. Et s'apprend à travers des exercices. On peut faire des exercices de fraternité. Alors ça, pour un jésuite, évidemment, ça ne peut que toucher. Et ben, vous donnez des exemples très concrets, très parlants, à travers ce que vous vivez, notamment au service jésuite des réfugiés. Voilà, je signale simplement le dernier exercice auquel vous nous invitez à la fin du livre, c'est un exercice que Socrate déjà affectionnait, ce que je pourrais appeler l'exercice des points de vue. Donc faire l'exercice de prendre différents points de vue, alors vous le faites en prenant le point de vue du chrétien, puis celui du citoyen, celui du membre d'une association, celui de l'État, montrant à chaque fois la particularité de ces points de vue et avançant à la fin, après avoir traversé ces différents points de vue, la proposition d'une fraternité, non pas triomphante, mais tremblante et vigilante. Alors c'est à cette fraternité que ce livre est dédié et elle éveille dans le lecteur le désir de cette fraternité et puis donne des pistes concrètes pour y avancer. Merci beaucoup pour ce livre, Véronique. Voilà. Et alors je donne maintenant la parole à Geneviève Jacques pour un contrepoint à partir de son expérience de la CIMADE.
Merci beaucoup, merci de m'avoir donné la possibilité de, non pas d'un contrepoint, le mot contre ne va pas, parce que je suis absolument d'accord avec et très reconnaissante à Véronique pour ce livre, mais contribuer à la réflexion à partir d'un exercice et qui est plutôt l'expérience de la CIMADE, qui est, comme vous le savez peut-être, mais je le rappelle en deux mots, une association issue des mouvements de jeunesse protestante au début de la Deuxième Guerre mondiale pour venir en aide, protéger, accueillir, et bien sûr en raison de manifestations de fraternité, ceux que l'on appelait à l'époque les indésirables étrangers. Et les premières équipes de la CIMADE sont entrées dans les camps d'internement pour être auprès des personnes enfermées. Et depuis 80 ans bientôt, la CIMADE a comme devise de manifester une solidarité active avec les personnes réfugiées et migrantes. Et le mot « avec » est important, parce que c'est pas pour, c'est avec, aux côtés d'eux. Et que nous apprend cette expérience concernant le thème de cette soirée provoquée par le livre de Véronique, qui était accueillir les exilés. D'abord, première question, on parle de qui aujourd'hui, hein? De qui on parle? Pour nous, pour JRS bien évidemment et pour beaucoup d'autres associations, on parle d'hommes, de femmes qui ont entrepris pour des raisons diverses qui leur sont propres de quitter leur pays et qui ont pris le chemin de l'exil et qui sont là, ici et maintenant. C'est une multitude d'histoires individuelles où se mêle la volonté de vivre, beaucoup de courage, souvent pour ceux qui reçoivent et accompagnent ces personnes, vraiment du courage, et aussi une grande richesse de ressources qui sont des ressources humaines, de ressources physiques, parce qu'il faut pouvoir le faire, ce chemin, et aussi des ressources financières, parce qu'il faut avoir les moyens, qui sont souvent fournis par les familles, de faire tout ce chemin. Comment on les nomme, ces hommes et ces femmes? Et là, juste, je voudrais attirer l'attention, parce que c'est important. n'est pas une question de sémantique. Les noms qu'on leur donne ne sont pas neutres. La façon dont les médias, dont les politiques parlent de ces hommes et de ces femmes aujourd'hui n'est pas neutre. Et le choix des mots, encore une fois, on peut bien le comprendre, oriente la façon d'appréhender la question de l'accueil des exilés. Questionne ou anesthésie la réflexion, ou bien induit des choix. C'est ainsi que on emploie le mot « migrant » à tort et à travers actuellement, alors que « migrant » désigne un mouvement. C'est désigne des gens qui sont en mouvement. Ce n'est pas un statut « migrant ». Mais on utilise de plus en plus le terme « migrant économique » comme pouvoir sous-entendre qu'il y a des causes utilitaires qui seraient peut-être moins légitimes que les causes forcées. Et les causes forcées, là, on emploie le terme « réfugié ». Réfugié, c'est un statut. Réfugié, ça se réfère à des droits internationaux, la Convention de Genève, de réfugié. La façon dont on utilise les mots actuellement, et malheureusement, pour les opposer, « réfugié » et « migrant économique » est lourde de sens, parce que elle justifie, et là je parle en connaissance de cause, elle justifie des politiques de tri entre des personnes qui seraient dignes d'être accueillies et d'autres qui ne le seraient pas. Et je vous assure que ça se traduit dans la réalité. C'est pour ça que je pense que le titre qui a été repris et qui est celui d'exilé est une façon de parler de l'ensemble qui n'enferme pas dans des statuts et qui n'enferme pas dans des oppositions. Alors, la première rencontre que ces exilés ont avec la société d'accueil, elle s'inscrit dans un contexte historique, politique, émotionnel, spécifique. La rencontre, c'est toujours ici et maintenant. Et ce contexte conditionne à la fois la façon dont la société perçoit les personnes étrangères, on leur donne plusieurs noms, cette rencontre est conditionnée aussi par, bien sûr, le choix des politiques migratoires. Et là, je ferai appel à une réflexion qui s'appuie sur l'histoire de la CIMAD et ma propre histoire en plus, qui est cette réflexion sur la détérioration de la figure de l'exilé au cours des 40 dernières années. En tout cas, c'est celle que je connais. Pour l'avoir vécu, et certains d'entre vous s'en souviennent probablement, au début des années 70, la France a accueilli des exilés latino-américains. L'image était très positive. On voyait en eux des militants qui avaient lutté, qui étaient victimes de dictatures militaires. La réponse de la société a été globalement solidaire, et la réponse du gouvernement aussi. Toujours dans la fin des années 70, il y a eu les Boat People, vous vous en souvenez. L'image était aussi positive. C'était des victimes qui, à la fois, fuyaient un régime qui était devenu communiste, donc pour certains, c'était un aspect positif, et c'était en tout cas des gens qui avaient entrepris des voyages mortifères. L'image dans la société était positive. L'accueil donné par notre pays, entre parenthèses 120 000 personnes en deux ans, a été également très positif. Aujourd'hui, les temps ont changé. La figure de l'exilé est brouillée est devenue confuse par tout un ensemble de causes dont certaines sont reprises dans le livre de Véronique. C'est brouillé d'abord je vous ai dit l'emploi des noms, et puis les métaphores hydrauliques ou guerrières qu'on utilise. on parle sans arrêt de flux. Enfin, sans arrêt. Un certain nombre de personnes parlent de flux, d'invasion, de submersion. Et c'est pas n'importe qui emploie ces mots, vous le reconnaissez. On utilise des images guerrières de ruées, voire d'assaut. Tout cela n'est pas neutre, bien sûr. La figure de l'exilé est aussi brouillée par les manipulations des chiffres et des faits. On entend, alors pour des gens qui, comme nous, sommes sur le terrain et attentifs et qui regardent aussi le cadre général, c'est effrayant d'entendre le nombre de fausses informations qui sont données et véhiculées par les médias. Par exemple, au lieu de parler de nombre en valeur absolue, on parle de pourcentage. Donc on va dire qu'il y a une augmentation de 200%, du nombre d'Afghans qui sont arrivés en France. Oui, certes, partant d'un tout petit nombre, vous comprenez que la manipulation que représente utiliser des pourcentages. Ou bien on mélange, certaines personnes encore, mélangent l'immigration régulière, l'immigration irrégulière, avec tous les fantasmes qu'il peut avoir derrière les chiffres. Ou, dernièrement, je vais être trop longue, mais parce que c'est une phrase qui a été reprise par le président de la République, sur la démographie africaine, hein, un livre de Stephen Smith qui parle de ruée à venir des Africains vers l'Europe. Le titre en lui-même est déjà effrayant, et il faut lire la critique qu'en fait le grand démographe qui est François Héran pour dire que tout ça c'est basé sur des prémices qui sont faux. Il y a aussi, bien sûr, je vais passer rapidement, mais une image brouillée par des politiques migratoires et des discours qui les accompagnent, qui sont de plus en plus sécuritaires, et donc qui présentent les migrants, puisqu'il y a des emplois comme ça, plutôt comme une menace qu'il faudrait contrôler, dissuader en tout cas, et en tout cas l'immigration comme un problème. L'aspect positif n'apparaît jamais dans les discours officiels. Ces images sont aussi brouillées par le climat politique de méfiance, de défiance par rapport aux politiques traditionnelles que nous connaissons dans notre pays et que nous voyons en Europe, dans des sociétés qui sont inquiètes parce qu'elles sont de plus en plus fracturées par des injustices économiques et sociales croissantes. Donc toutes ces confusions des représentations et l'usage qui en est fait, bien sûr, entraîne un sentiment d'anxiété partagé par beaucoup de nos concitoyens, avec des peurs qui sont irrationnelles, hein, le plus souvent, mais qui sont utilisées sciemment par des courants nationalistes et xénophobes et avec le poison de la diffusion de ces idées toxiques dans les réseaux sociaux. Ces peurs, et Véronique, ça c'est deux mots un mot que vous n'avez pas employé, il y a « je crains et je crois la peur des pauvres ». Quand on parle des exilés qui font peur, il y a la peur des pauvres. Hein, on a peur, toute la misère du monde. Et c'est pas de n'importe quels exilés qu'on craint. Et je pense que là, ça traduit aussi quelque chose pour nos sociétés. Et puis, bien sûr, la peur, mais là, ça a été évoqué, la peur des musulmans à qui on pense qu'ils ont comme projet d'occuper l'Europe. C'est la théorie du grand remplacement. Donc, un premier enjeu, je voulais insister sur ce point un peu longuement, vous m'excuserez, mais un premier enjeu quand on parle d'accueil des exilés, c'est de remettre au centre l'humanité de ces hommes et de ces femmes et de ne pas se laisser abuser ou manipuler par l'usage de mots ou d'images qui tendent à les enfermer dans certaines catégories et bien sûr déconstruire les préjugés. Deuxième et très rapidement, parce que c'est le temps, mais juste sur la, toujours sur cette même idée, quand on parle des exilés, de qui on parle? Et quand on parle de l'accueil, on parle de quoi? Et là encore, là, je vais partir de l'expérience de la CIMAD, parce que derrière ce beau terme d'accueil et de mise en œuvre d'un accompagnement fraternel, se cache beaucoup d'actions et d'activités différentes, qui correspondent d'ailleurs aux différentes étapes que vont franchir les exilés dans leur rencontre avec la société d'accueil. Dans leur rencontre, s'ils arrivent à y arriver. Et la première, je vais très rapidement mentionner la CIMAD, ce que nous essayons de mettre sous ce terme, de défendre un accueil digne. Eh bien, c'est un plaidoyer pour le droit d'arriver ici en sécurité. Et c'est tout le plaidoyer que nous faisons, avec d'autres bien sûr, contre les politiques de fermeture des frontières, contre maintenant la fermeture, le rejet, l'interdiction des bateaux, etc. Vous connaissez le contexte. Deuxième aspect, c'est tout cet accompagnement individuel pour avoir accès au droit de vivre ici. Et ça s'appelle avoir accès à un droit au séjour. Les personnes étrangères disent avoir des papiers. Ça prend des formes différentes, mais ça peut être le droit d'asile, donc accéder au droit d'asile, ou bien au droit de vivre en famille, ou bien si on est malade, ou bien si on est un jeune isolé, etc. Il y a beaucoup de catégories différentes. Et puis, il y a aussi accueillir, c'est aussi défendre le droit pour les exilés d'être traités dignement. Et ça concerne en particulier les questions d'hébergement. Notre pays, vous le savez, vous le voyez dans les rues de Paris, n'est pas à la hauteur en ce qui concerne l'accueil digne des plus vulnérables en général et des exilés en particulier. Et puis aussi, il y a d'autres droits qui font partie de l'accueil. C'est par exemple le droit à l'apprentissage du français pour tous. Il n'existe pas pour le moment. Le droit, pour ceux qui ont eu le statut de réfugiés, le droit de trouver un endroit et les moyens pour poser ses valises, pour commencer le temps de l'exil. Et là aussi, c'est un gros défi qui nécessite des formes d'accueil et d'accompagnement tout à fait spécifiques. À toutes ces étapes, très très brièvement, le constat actuel, c'est une multiplication des obstacles de tous ordres, qui sont politiques, administratifs ou bureaucratiques, et qui conduisent à un recul de l'accès aux droits pour les personnes exilées. C'est ce que la CIMAD, mais beaucoup d'autres, ont dénoncé avec la nouvelle loi sur l'asile et l'immigration, où c'est pas, par exemple, le droit d'asile est pas supprimé, bien évidemment. C'est l'accès au droit d'asile qui devient de plus en plus difficile. L'accueil n'est pas supprimé, c'est l'accès à un accueil digne qui devient de plus en plus difficile. Et tout ça fait, toutes ces accumulations, fait que pour les exilés que nous rencontrons, le premier visage de la France institutionnelle est très peu accueillant, malheureusement. Peut-être on reviendra après, mais j'ai parlé plus de mon quart d'heure, sur les menaces et les chances. Mais je ne sais pas, je continue. Bon, alors c'est juste pour, dans ce contexte, juste des traits pour la discussion après. On parle beaucoup de la crise des migrants. Pour nous, elle est mal nommée. La mal nommée crise des migrants est en fait une crise des politiques nationales, européennes et nationales, françaises, face aux enjeux des mouvements de l'exil de notre siècle, aujourd'hui et maintenant. Et ces crises, cette crise des politiques s'aggrave et se manifeste concrètement de différentes façons. Je vais juste donner des intitulés, vous mettrez des images et des contenus derrière. Une crise humanitaire sans précédent, je crois, depuis la Seconde Guerre mondiale, en Europe, avec des morts sur les routes, en mer, 15 000 morts depuis 2014. Un pourcentage de morts dans ce début d'année 2018, on est presque à 2000 morts noyés en Méditerranée parce que les frontières étaient fermées. L'errance de plus en plus, d'un nombre de plus en plus important de personnes sur les routes ballottées d'un endroit à un autre. Des pratiques d'enfermement dans des camps, en France pas, mais dans des centres de rétention, de relégation et toutes ces maltraitances. Une crise morale pour l'Europe et aussi dont notre pays n'est pas indemne, à coup de repli égoïste, de banalisation de l'inacceptable, ou bien de résignation et d'indifférence. Certains parlent de la fatigue de la compassion. On laisse faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sait pas ce qu'on peut faire, donc voilà. Ça s'accompagne aussi, cette crise actuelle, d'une crise politique, avec la montée en puissance en Europe de courants hostiles qui font du rejet de l'étranger le bouc émissaire de tous les malaises de la société, avec toutes les conséquences que l'on voit. Alors, dans tous les pays européens, vous le voyez, sur les personnes étrangères, bien sûr, mais sur les sociétés elles-mêmes. Et le succès de théories invraisemblables, dont celle du grand remplacement. La menace, les menaces, dans ce contexte d'un accueil défaillant de nos États, et de la montée des mouvements hostiles, pour moi, je l'appellerais le spectre menaçant d'un cauchemar de régression pour tous, pas simplement pour les personnes étrangères. Et je crois que c'est aussi quelque chose que vous dites très fortement dans votre livre, dans les reculs. Mais ne restons pas sur ces images dramatiques ou ces préoccupations qui me semblent très graves, mais il y a aussi des chances, puisque le titre c'était menace ou chance, mais il y a aussi beaucoup de chances dans la situation que nous vivons, et la plus belle et la plus visible, c'est une mobilisation de la société civile, des sociétés civiles, autour de cette cause de l'accueil, de la défense des personnes étrangères, quel que soit le nom qu'on leur donne. C'est même probablement l'une des causes qui mobilise le plus actuellement en France, avec la cause écologique. Je crois que c'est un des deux qui mobilise des énergies, des engagements nouveaux sous une double forme. La première forme de mobilisation en réponse à l'indignation, ce sont le développement de résistance contre les atteintes à la dignité et aux droits, et ça prend beaucoup de formes, que ce soit aux frontières, dans les rues, pour l'hébergement, etc., etc. Et puis, c'est pas que contre, ce sont aussi des engagements conscients, volontaires, pour promouvoir des conditions d'accueil dignes et fraternelles, pour promouvoir des rencontres humaines, pour faire changer les regards, pour utiliser tous les leviers de la culture pour faire changer les regards. C'est très important. Les leviers de la culture, le théâtre, la littérature, le cinéma, etc. Et puis aussi, pour rappeler notre propre histoire, qui est une histoire qui a été faite de mouvements migratoires qui se sont pas toujours bien passés, mais qui font partie de notre histoire de France. Et enfin, je terminerai par le livre, et par le titre du livre, Fraternité, l'émergence d'un fort courant intellectuel actuellement autour des thèmes de l'hospitalité et de la fraternité. Je vous recommande de chercher le nombre de titres actuellement qui sont publiés autour de ces thèmes. La revue Esprit a sorti un numéro spécial qui s'appelle « Le courage de l'hospitalité » pendant l'été. Michel Agier vient de sortir un livre qui s'appelle « L'étranger qui vient repenser l'hospitalité » et etc., etc. Pour la CIMADE, ce terme nous est très cher parce que nous, ça fait des années que nous essayons de faire passer ce thème pas comme un thème bisounours et gentil, mais comme une exigence compliquée, sachant que c'est un défi. La fraternité et l'hospitalité sont des défis, mais ce sont des défis qui valent vraiment la peine d'être relevés dans les périodes que nous vivons. Voilà. Merci.
Voilà, je passe maintenant la parole à Véronique Albanel.
Merci d'abord à vous tous d'être là, nombreux. Merci à Guillaume pour cette lecture bienveillante. Et merci à Geneviève pour cette force de conviction, force d'engagement. Et je tiens à non seulement la remercier, mais à travers elle, remercier la CIMADE. Parce que je crois vraiment que l'histoire de la CIMADE, pour moi, est exemplaire. C'est vrai que dans mon livre, je fais parfois des parallèles avec ce qui s'est passé avec la Shoah et notamment la condition des Juifs, l'accueil des Juifs dans les camps d'internement. C'est vrai que j'ai fait ma thèse sur Hannah Arendt qui a été elle-même internée dans le camp de Gurs. Et je suppose que la CIMADE était présente dans ce lieu. Et donc pour moi, cette belle image, c'est un peu comme voilà un exemple qui permet de ne pas désespérer quand même dans des temps parfois difficiles. Je me laisse aussi, et merci encore pour cette interpeller sur la peur des pauvres. J'avoue que c'est vrai que peut-être que je ne l'avais pas saisi, mais je veux juste dire un mot en entrée. Je ne l'avais pas formulé en ces termes, mais finalement je pense que c'est très convaincant d'aller jusque-là, peur des pauvres. Je voudrais juste préciser ce qu'est le remplacement, puisque c'est le sous-titre de ce livre. Je n'y consacre pas beaucoup de pages, mais je crois que pour éclairer quand même de quoi il ne s'agit pas que de l'islam. En réalité, et ça rejoint cette peur des pauvres, c'est une thèse complotiste qui ne se veut pas du tout ni un concept, ni un argument. Ça ne se veut appuyer sur rien d'autre que votre évidence épidermique quand vous vous baladez à Saint-Denis ou ailleurs, donc dans des poches de concentration. Cette évidence qu'en une génération ou deux, voilà la thèse, les Blancs, il faut dire le mot, seront remplacés par des Maghrébins et des Africains de subsahariens. Voilà, il faut le dire. Je pense honnêtement même que dans cette thèse, pour avoir lu, et croyez-moi, c'est très pénible à lire, donc la thèse du grand remplacement de Renaud Camus, en réalité, il ne se prétend pas du tout chrétien, en tout cas pas plus que Maurras. C'est exactement la même logique que le camp des saints, hein, c'est-à-dire qu'au fond, le christianisme n'est qu'un prétexte. Je crois qu'il faut aussi avoir le courage de dire ça et de mettre en avant ce qui est réel. Et c'est pour ça que parmi les thèses que j'essaye de réfuter, qui sont les impensées de cette peur, je pense qu'il y a vraiment la thèse du racisme, qui, à mon avis, a malheureusement encore de beaux jours devant elle. Et qu'il faut, comme toutes les peurs, comme toutes les thèses de l'exclusion de l'autre, qu'il faut pouvoir regarder en face et pouvoir nommer. Je crois qu'à partir, j'aime beaucoup ce que vous dites sur mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde, hein, comme le disait Camus, et Arendt disait, les mots justes, c'est déjà de l'action. Donc, à partir de là, je reprends rapidement, hein, je vais essayer vraiment de vous donner la parole, parce que ce débat, moi, c'est ce que j'ai cherché dans ce livre. Je dirais quelques brefs éléments, sans reprendre peut-être ce qui a été dit. Ma question dans cet ouvrage était assez simple, peut-être est-ce la vôtre. Comment s'orienter, comment se repérer, comment agir? Parler et agir, c'est la même chose. Sans dramatiser ni culpabiliser. Pour être très franche, je pense que ces deux ressorts, la dramatisation et la culpabilisation, ce sont de mauvais ressorts. En tout cas, ça ne nous pousse pas à l'action. Je crois que l'action, c'est encore une fois très arendtien. Les moteurs, ce sont la joie de la rencontre, la confiance. Et puis, peut-être quand même le fait de passer des principes à une réalité concrète et vécue. Alors, ma démarche, pour faire court, elle s'appuie sur trois fondements, enfin trois choses qui me paraissent indispensables, peut-être à tenir ensemble. La première, c'est l'expérience. Vous avez vraiment mis en avant cette expérience et je crois qu'il faut réhabiliter l'expérience. Finalement, tout ce qui n'est pas lié ou vérifié dans l'expérience, je crois que ça tombe, nos grands principes, nos... Bon. Donc, première chose, l'expérience concrète, vécue, revisiter, relu, ce qu'on appelle, paraît-il, dans les hôpitaux, je l'ai appris il y a peu de temps, les retours d'expérience. Vous voyez, et à partir des retours d'expérience, humblement faire un peu, en tout cas tenter d'avancer, de prendre en compte les échecs. Deuxième point d'appui, l'enseignement de l'histoire. Je crois profondément à l'histoire. Une de mes phrases que je cite à tout bout de champ, je crois depuis l'âge de 18 ans, l'âge où mes parents nous ont emmenés au camp de Dachau et nous avons vu cette phrase incroyable. Qui ne se souvient du passé et condamné à le revivre? Cette méditation qui ne m'a pas quittée, je crois qu'il m'habite et qui m'a poussée à venir faire des études ici. Pour moi, l'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais elle bégaye. Et honnêtement, aujourd'hui, elle bégaye étrangement. Empêchons-la de se répéter. Et troisième point d'appui, donc, la pensée philosophique, cette tradition. Alors, je dis le mot philosophique avec un peu de prudence parce que parfois ça fait fuir les foules. Je dirais simplement la profondeur de la pensée. Comme disait Hannah Arendt, stop and think. Arrêtons et pensons. Parce qu'il faut parfois prendre des petites pauses et prendre du recul. Alors, je vous dirais juste deux convictions rapides sur ces trois points. L'expérience de résultat, je pourrais dire de ressources. Je commence par l'expérience concrète. Et je tiens à dire que l'expérience que je vais vous livrer, c'est celle que j'ai de JRS et je salue vraiment, je crois qu'il y a Antoine un peu loin, je crois avoir peut-être aperçu Samuel, bon, vraiment les personnes et puis tous ceux du conseil d'administration qui sont venus pour me soutenir, ça c'est merci beaucoup, du bureau aussi. C'est une aventure magnifique et c'est de ce lieu-là que je vous tire quelques ressources. Première conviction, bien sûr, l'hospitalité, la fraternité, ce sont des gestes simples, tout simples, pratiques, concrets. Ouvrir sa porte, partager un repas, c'est à la portée de tous. Échanger un regard, un sourire, ça commence tout simplement. Mais ma conviction aujourd'hui, c'est que ces bonnes volontés, vous voyez, heureux les hommes de bonne volonté, ces bonnes pratiques, toute cette spontanéité, je dirais, de l'hospitalité, ça ne suffit pas. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont complexes, ça a été un peu dit, hein, tous ces cas particuliers, non seulement des personnes, mais aussi des temps de l'accueil. Donc, ma première conviction, c'est qu'il faut être à plusieurs. Pour retrouver, pour renouer avec la fraternité, avec l'hospitalité, je pense qu'il faut s'engager à plusieurs. Je pense qu'on fait moins d'erreurs à plusieurs. C'est un des fondements, un des fondamentaux donc de JRS, c'est le réseau, un réseau de bénévoles, mais aussi un réseau de partenaires associatifs avec lesquels on travaille. On ne prétend pas tout faire nous-mêmes, tout seul. C'est pour ça que le Secours catholique, la CIMAD sont des partenaires privilégiés. Partage d'expériences, vraiment réfléchir, relire à plusieurs nos expériences. Ma deuxième conviction à propos de l'expérience concrète, et je vais vite, et il y en aurait d'autres, hein, c'est désirer la réussite. Je tire ça notamment d'un témoignage du maire de Bonnel. Donc même les maires, vous voyez, s'engagent et c'est magnifique quand ils montrent que ça marche, à qui on a, voilà, sans lui demander s'il était d'accord, demandé d'accueillir dans un CAO, centre d'accueil d'orientation. Et ils disaient, ils se sont réunis autour de la table du conseil municipal et ils ont décidé que ça allait marcher, qui voulait que ça marche. Et ça a marché de manière remarquable. Donc désirer la réussite, mais à différents niveaux, notamment pour que la personne s'intègre. Donc ça suppose de choisir des pratiques, voilà, ajustées à la personne, ajustées aux familles d'accueil, si ce sont les familles qui accueillent. Donc ça suppose de parier sur une réciprocité, parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus se suffire d'une charité distributive un peu verticale, où on se donne bonne conscience. Donc parier sur une réciprocité, et j'ajouterais une réciprocité responsable. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut pouvoir dire oui, mais parfois dire non. J'ajoute que vouloir que ça marche, vouloir la réussite, être passeur de fraternité, c'est aussi assumer les échecs. Parce que l'hospitalité, la fraternité, parfois, ça suppose de reconnaître des échecs, ces échecs, ou simplement que ça n'a pas pu marcher. J'en viens à l'histoire, les leçons de l'histoire, très rapidement aussi, deux petits points. Ma conviction, par la recherche que j'ai faite, c'est que l'hospitalité est une loi fondamentale de l'humanité, mais ancestrale, qui remonte bien avant l'éthique, bien avant même les lois elles-mêmes. C'est une loi nomade. Et curieusement, cette expérience fondamentale d'humanité, qui remonte à Abraham, voilà, eh bien, nous ne savons plus faire. Il y a une perte. Vous voyez, c'est très étrange. Je ne m'attendais pas, honnêtement, en m'engageant dans cette recherche, de constater que nous avions perdu en termes de savoir-faire. Deuxième conviction à propos des leçons de l'histoire, je crois que l'histoire nous enseigne la vigilance. Et cette vigilance, moi je l'ai, c'est un peu aussi un cri d'alerte, hein, encore une fois, sans tomber dans une forme dramatique ou tragique, mais je crois qu'il y a un risque réel, peut-être déjà amorcé, hein, je partage un peu cette alerte, risque d'effondrement moral, effondrement du droit, et même peut-être de l'état de droit, et je crois qu'il faut en avoir conscience. Je veux dire, ce n'est pas qu'une affaire qui concerne les étrangers, ça concerne tout le monde. Je crois que l'histoire nous l'apprend. Quand on commence à tenter aux droits de certains, c'est tous qui peuvent subir ces atteintes. Donc effondrement moral, effondrement du droit et effondrement du rapport à la vérité. Et je crois que vraiment toutes ces logiques de soupçon, toutes ces logiques complotistes mettent à mal la vérité. Quelqu'un me disait, je n'ai pas vu le reportage il y a peu de temps, mais que Steve Bannon, vous savez que c'est un ardent Steve Bannon, ancien conseiller de Trump, qui circule beaucoup en Europe et qui consulte toutes les ultra-droites en Europe, est un ardent défenseur du grand remplacement. Le camp des saints, qui a tiré sa célébrité notamment aux États-Unis, est lu, paraît-il, c'est même un livre de chevet de Steve Bannon. J'en viens à la pensée philosophique. Je crois qu'elle nous apprend beaucoup de choses. La première chose évidente, je ne l'ai pas dit dans mon livre, mais ça m'est venu comme une évidence pour ce soir, c'est que la peur est une passion triste. Je rends hommage à mon directeur de thèse, M. Spinoza. C'est une passion triste qui diminue notre capacité d'agir. La joie, mais c'est une expérience d'une évidence absolue. Enfin, je pense que chacun peut la vérifier. La joie que nous pratiquons beaucoup, que nous, c'est très convivial, JRS, hein, en fait. Voilà, tout l'accès au passage de réfugié, au statut de réfugié, c'est célébré, les anniversaires sont célébrés, tout est occasion de fête. Eh bien, je crois que la peur nous divise. La peur, c'est un ressort, c'est une manipulation. Hein. Bien sûr qu'il y a des peurs légitimes. Je crois que la peur peut éventuellement nous alerter. Je n'oublie pas que nous sommes dans un contexte de risque d'attentat terroriste. Mais je crois que la peur, systématiquement, va vers un bouc émissaire. Il faut trouver quelqu'un de responsable. Et surtout, elle sépare le monde de manière binaire. Les bons, les méchants. Les bons réfugiés, les mauvais migrants. Voilà. Les amis, les ennemis. Et je pense qu'il y a des intérêts derrière qui manipulent et qui recherchent ce clivage absolument contraire au réel qui est activé là. Je terminerai juste en essayant de ressaisir ce que m'apprend l'expérience, l'histoire et la philosophie par une bonne nouvelle. C'est qu'il me semble qu'il y a une chance sérieuse à constater. Alors je la constate particulièrement en France, hein, parce que nous sommes un pays de laïcité et puis un pays qui a connu ses propres crispations. Je ne l'étendrai pas forcément à toute l'Europe. Mais il me semble en tout cas qu'il y a une réconciliation à l'œuvre que je vois vraiment germer entre deux traditions fraternelles, la tradition chrétienne de la fraternité, la tradition républicaine de la fraternité. Vous savez que c'est quand même deux traditions ennemies qui ont vraiment beaucoup, beaucoup bataillé. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de dialogue qui est ouverte du fait de cette question migratoire. Je pense qu'il y a des forces qui se mobilisent sur le terrain. Aujourd'hui, se positionner en tant que catholique, en tant que jésuite, en tant que voilà service jésuite des réfugiés, nous assumons, ne fait plus peur parce qu'on sait aussi ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qui compte. Voilà, je m'arrête là.
Voilà, merci beaucoup pour à l'une et l'autre pour vos prises de parole. Et maintenant vient le moment d'échange qui peuvent être à partir de questions ou de peut-être de témoignages aussi, en reprenant tel ou tel point qui a été lancé. Il y a à la fin quelques pistes que Geneviève Jacques, par exemple, a commencé à présenter. Voilà, donc la parole est à vous. Un micro va circuler. Donc il y a déjà une question. On prend deux ou trois questions. Oui. Voilà, déjà deux ici.
Oui, bonsoir. Plutôt que d'une question, j'aimerais prendre la joie de saluer cette rencontre que je ressens comme un effort de la fraternité à la recherche d'elle-même. Je peux m'en tenir à cette expression, cette fraternité qui doit se chercher, se rechercher et qui vraiment se concrétise dans sa recherche d'elle-même. Pas une rencontre comme celle-ci où on s'arrête, on réfléchit, on fait tout ce qu'on est en train de faire. Je prends cette joie-là de la saluer. Ça, c'est là ma première contribution. La deuxième serait que le problème de la migration étant un problème de toujours et restera comme tel, il importe à tout moment que partout où on est concerné par ce problème, on retourne aux sources les plus profondes de l'humanité pour pouvoir essayer d'ajuster ou de résoudre le problème au mieux, même si ces résolutions-là resteront toujours limitées. Et à ce sujet, j'ai retenu ce qu'on a dit de Victor Hugo, à savoir une fraternité autour de la vie, de quoi encore, de la liberté et de l'âme, je crois. En tout cas, il faut des idéaux de ce genre qu'il faut rappeler pour que chacun, à tout moment, se reconnaisse, parvienne à envisager l'autre qui est en face de lui, et qu'à partir des repères assez clairs, aussi nets, on puisse, par rapport aux problèmes d'identité qui sont sous-jacents à toutes les peurs et tout le reste, savoir ce qu'on peut essayer de faire. Encore deux éléments, aussi brefs que les deux premiers. Le premier élément, ou le troisième plutôt, serait de considérer que si le christianisme, comme j'ai cru comprendre que c'est le cas, devrait être pris comme un prétexte, on serait donc en train de l'avilir. Donc il faudrait, nous chrétiens, du moins par prétention, voir comment résoudre ce problème. Et dans le même champ d'observation, je considère que pour moi, chrétien, non pas le christianisme, mais non pas le christianisme dans son idéal, mais le christianisme dans sa pratique, dans l'histoire de l'humanité, pour le peu que j'en sache, est l'une des religions les plus violentes. Je le dis avec beaucoup de calme pour qu'on puisse adopter ma pensée et y réfléchir. Je ne la compare pas, se disant, à d'autres religions comme l'islam. Ça, ce serait d'autres considérations. Mais le christianisme concret, historique, je le perçois dans sa pratique et ses conséquences comme une religion des plus violentes. Le dernier élément.
Oui, très, très brièvement, parce que si tout le monde.
Excusez-moi, j'ai un peu
de temps.
Oui. Le dernier élément, c'est que il faudrait que nous, qui accueillons des migrants, regardions aussi comment nous sommes accueillis quand nous allons ailleurs. Ce serait une manière de résoudre nos peurs et d'être peut-être non seulement juste, mais plus réaliste. Je vous remercie pour votre attention.
Merci. Une deuxième question.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour votre intervention qui était passionnante et je pense qu'il participe aussi de notre joie commune. Maintenant, j'ai une remarque par rapport à la deuxième intervenante, enfin plutôt une question. Vous avez parlé donc des droits des exilés. Par contre, moi, je m'interroge vis-à-vis des devoirs qu'ils pourraient avoir vis-à-vis de leur pays d'accueil. Et auquel cas, s'ils en ont, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est peuvent-ils faire barrage à des discours obscurantistes comme, enfin, on les connaît très bien, les partis politiques en France, pardon. Voilà. Merci.
Merci.
La deuxième intervenante, c'est moi. Oui, c'est Geneviève Jacques.
Elle s'appelle Geneviève Jacques. Oui, le thème, c'était autour de l'accueil. Et donc, tout ce que recouvre la mise en œuvre d'un accueil, ça recouvre beaucoup de choses. Et je parlais de l'accès à un certain nombre de droits. Nous sommes dans un état de droit. La France est signataire d'un grand nombre de pactes et autres conventions internationales qui définissent des droits. Et dans ce que je disais, c'était la possibilité d'accéder à des droits et le droit d'être traité dignement. Ensuite, vous posez la question des droits et des devoirs. Dans la mesure, dans la mesure où une personne étrangère, un exilé, obtient le droit d'être ici, il a donc un droit au séjour, mais c'est pas un séjour en théorique, c'est le droit à être dans cette société qui a ses devoirs, ses normes et ses règles. Et c'est tout cet apprentissage qu'on appelle le processus d'intégration ou d'insertion. Ce qui pose question actuellement, et s'il ne faut pas se cacher la face, hein, pourquoi cette question est tellement clivante actuellement, c'est parce que se développent dans notre pays des endroits qui ont été abandonnés de la République, où se concentrent la pauvreté, l'exclusion et le sentiment d'humiliation. Et là, effectivement, il y a des personnes qui ne reconnaissent plus les droits d'une République. Voilà. Et là, il y a un vrai problème. C'est pas du tout le cas. Alors là, je parle d'expérience de la CIMADE. On reçoit plus de 100 000 personnes par an. Donc, ces réalités qui sont problématiques, c'est vrai, tout à fait. Ça ne concerne pas du tout les personnes qui arrivent actuellement, qui au contraire n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir faire partie de cette société. J'ai un exemple que je cite tout le temps, qui paraît ridicule, recevant une dame qui avait été longtemps sans papier, etc. Et elle disait, mon rêve, moi, c'est de pouvoir payer des impôts. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont comme rêve de payer des impôts. Elle signifiait par là que c'était sa façon de remplir son devoir comme tout le monde. Ça, c'est l'attitude très, très majoritaire des personnes qui arrivent. Encore une fois, on n'est pas dans un monde parfait et il existe des vrais problèmes de gens qui qui sont relégués dans un certain nombre d'endroits et qui, oui, remettent en cause les devoirs. Mais c'est une autre question.
Oui, je dirais juste, c'est vrai qu'à JRS, mais nous sommes dans un cas très particulier puisque c'est un accueil dans des familles, dans des lieux donc intimes ou des lieux d'hébergement. C'est vrai que nous sommes attachés à cette réciprocité, y compris dans les droits et les devoirs. Donc, je ne voudrais pas vous laisser imaginer que nous sommes que dans des droits et dans une forme de oui, on dit oui à tout. Non, je pense que cette réciprocité, elle suppose de reconnaître une exigence des deux côtés. Ce qu'on appelle, nous, la charte des bonnes pratiques, c'est aussi bien de la part de la famille, voilà, d'adopter une certaine discrétion, un grand respect par rapport à la personne, de ne pas l'envahir de questions et puis de ne pas chercher à savoir si, entre guillemets, c'est un vrai ou un faux. Et de la part de la personne, et ça, nous le posons comme un ensemble de, j'allais dire, tout simplement de respect de la relation humaine, simplement de se plier aussi aux règles de la famille, c'est-à-dire ne pas accepter des retards, voilà, inconséquents, pouvoir poser simplement un certain nombre de règles, plus que des droits et devoirs, j'entends très bien ce que vous voulez dire, je dirais simplement poser des règles. Mais ma conviction, c'est qu'on a prétendu, et Derrida, que j'aime beaucoup, va dans ce sens, que l'hospitalité, c'était complètement inconditionnel. Vous voyez, oui, il y a une part d'inconditionnel, mais c'est aussi de la réciprocité. L'hospitalité n'est pas le don. Et ça, les travaux d'Émile Benveniste le confirment. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'est un pacte de liberté réciproque. Chacun et librement dans sa position de dire, ben voilà, moi je peux accueillir, mais mon fonctionnement normal dans ma famille, c'est de ne pas ouvrir après 10h du soir parce que j'ai besoin de dormir. Et bien voilà, l'accueilli, il respecte les horaires de repas, etc. C'est un comme on ferait avec un ami de passage. Ça ne comporte pas, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
On va prendre quelques autres questions. Oui, monsieur.
Oui, bonsoir. J'aimerais rester sur JRS, poser peut-être une question générale, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été accompli. Deuxième question, évidemment, quelles ont été les principales difficultés. Et la troisième, si on est là ce soir, c'est pour essayer d'agir. Donc, en quoi on peut agir et sur quel levier. C'est pas forcé, il n'y a pas... En vous écoutant, je me disais, bon, bien sûr, on peut agir au niveau personnel, accueillir des gens, mais on peut peut-être intervenir auprès de nos élus, ou, enfin, un tas de choses. Voilà, j'aimerais avoir des précisions.
Merci. Puis madame. Pour que les gens derrière entendent aussi.
Donc, déjà, merci pour vos interventions. Et, moi, j'aimerais parler de la fraternité européenne. Parce qu'on voit bien que c'est un sujet, l'accueil, qui divise beaucoup et qui est en train aussi de faire éclater, alors peut-être que c'est pas la vraie raison, mais notre Europe. Et alors il faut travailler à plusieurs, vous l'avez dit madame, hein, l'individu seul ne peut rien. Mais là, ça va même plus loin que ça. Je me dis comment on va pouvoir reconstruire au niveau européen une fraternité, est-ce qu'elle existe ?
Je vais répondre rapidement sur JRS et puis un petit peu, et puis peut-être que vous pourrez compléter, Geneviève, sur, notamment sur l'Europe. Alors merci pour cette belle question sur JRS. Je pense que d'autres dans cette salle seraient bien mieux placés que moi pour, je pense à Jean-Marie Carrière qui a fondé ce service jésuite des réfugiés un peu plus de 10 ans, 2007. Je crois encore une fois que JRS reste petit, donc aucune comparaison avec la CIMAD, nous n'accueillons pas 100 000 personnes par an. Grosso modo, je vous donne... Pardon ?
On accompagne, on n'accueille pas.
Oui,
c'est pas le même type de...
C'est vrai, accompagner. Alors, nous accompagnons et accueillons environ 1600... Pardon, je vais me faire rappeler à l'ordre. À peu près moins de 1000, 890 accueillis dans toute la France, sur une quarantaine de villes qu'on nous nommons des antennes. à peu près 3000 bénévoles, 1600 lieux d'accueil, si vous voulez. Parmi nos activités, donc vous voyez, ça reste très modeste. J'allais dire, oui, c'est un peu artisanal. Nous faisons du sur-mesure avec un accompagnement très, très de grande proximité. Les familles ne sont pas du tout laissées, j'allais dire, en live, hein, c'est-à-dire avec leurs difficultés. Il y a vraiment un accompagnement très étroit de ce qui est vécu pour rassurer, parce qu'on prend en compte hein, les peurs. Je crois que chacun a peur. Quelqu'un me disait que quand on accompagne l'accueilli, l'accueilli ne débarque pas dans la famille comme ça, mais quand l'accueilli vient dans une famille, la famille a des appréhensions et l'accueilli a des appréhensions. Vous voyez, donc il s'agit de d'essayer de rassurer tout le monde et je crois que ça se fait vraiment le premier accueil et peut-être un tout petit peu dans l'appréhension puis après on nous apporte avec beaucoup plus de confiance. Donc je crois que JRS va entre guillemets bien nos difficultés puisque vous nous demandez nos difficultés, nous cherchons des familles, je fais un appel large, nous cherchons des familles en particulier Paris, Île-de-France, nous avons besoin de familles, nous n'avons pas assez de familles. Avec la grande difficulté à Paris, mais je n'ai pas vous jeter la pierre parce que j'en suis la première à le faire, c'est les vacances scolaires. Les vacances scolaires, c'est-à-dire que les grands-parents accueillent leurs petits-enfants, partent à la campagne. Mais oui, mais l'accueil pendant ce temps-là, il faut bien le maintenir. Puisque je rappelle brièvement, hein, 4 à 6 semaines dans une famille, dans un lieu d'accueil, pas nécessairement une famille, ça peut être des communautés religieuses, 4 à 6 semaines, vous voyez que c'est à taille humaine. C'est court, 4 à 6 semaines. Et puis, une autre famille prend le relais, un autre lieu d'accueil, tout ça pour une durée à peu près établie à l'avance. C'est un espèce de contrat de 9 mois en moyenne. Au bout de 9 mois, que la personne ait un travail, un lieu d'hébergement ou pas, il faut aussi qu'elle apprenne à voler de ses propres ailes. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une forme contractuelle. Donc, voilà. Comment agir? Je vous prends au mot. Voilà, il y a plein de façons d'agir. Il ne s'agit, pour certains, il n'y a pas de possibilité dans d'hébergement, pas d'espace suffisant. Nous avons de multiples formes d'engagement. Le tutorat, puisque encore une fois, il y a le lieu d'accueil qui est très important parce que on vit la rencontre et la famille est déchargée de tous les soucis juridique, administratif, et que va-t-il devenir, tout ce qui fait que on se met dans cette anxiété terrible. Non, il faut consentir à vivre un temps de rencontre, d'hospitalité, et puis à laisser faire le réseau, et c'est le réseau qui porte, qui s'engage. Et donc, le tutorat assure la continuité de famille en famille. C'est un tuteur qui suit régulièrement, qui est en proximité, qui écoute, qui sait, voilà, peut-être ce qui ne sera pas confié à la famille. Tout n'est pas confié à une famille. Il y a une activité, alors, qui est remarquable, qu'on appelle JRS jeune, jeune étudiant ou jeune professionnel, ou moins jeune. Le terme jeune va peut-être changer. Où ce sont des activités partagées. De tous ordres, partie de foot, activité de yoga, activité cuisine, atelier tricot, il y a même des réfugiés messieurs qui le font. Encore une fois, gymnastique, que des activités partagées dans le but d'apprendre réciproquement. Et j'en profite parce que c'est une activité qui me plaît beaucoup, que j'aime beaucoup, puisqu'on a parlé des points de vue. C'est le café débat, vous voyez, c'est organisé, et où il y a eu un café débat en octobre dernier, où les réfugiés étaient appelés à se mettre dans la peau des Français et les Français dans la peau des réfugiés. Ben voilà, ça a très bien marché, je vous assure que les réfugiés, on apprend beaucoup. Hein. Enfin, ils nous donnent des leçons. Voilà, donc plein de lieux, un site www.jrs.org. Consultez, vous verrez. Vous trouverez sûrement comment vous engager. Un petit mot sur l'Europe. Je partage votre inquiétude et je partage d'autant plus votre inquiétude sur la fraternité européenne que vous savez que les élections européennes, en tout cas le fameux Steve Bannon qui sillonne l'Europe, s'en fait visiblement un chevalier ardent, les élections européennes se joueront sur cette question clivante. Et tout est fait, tout, je pense, y compris dans la riposte progressiste qui est tentée, pour bien cliver les pros et les contres. Réduire, à mon avis, l'Europe, même si cette question est cruciale, réduire l'enjeu européen à être soit la victoire des populistes, soit la victoire même des progressistes, aucune de ces deux hypothèses ne me ravit. Je pense que le monde n'est pas binaire, loin de là, qu'il y a plein de gens en un état d'insécurité culturelle, comme on les appelle, qui ne demande qu'une chose, c'est à basculer d'un côté ou de l'autre, et qu'il faut pouvoir convaincre. Donc moi, je crois que c'est à chacun de nous d'adopter, je dirais, des attitudes de retenue, commencer par nommer avec les mots justes, ne pas alimenter ce brasier qui ne tient qu'à peu de choses pour s'inflammer. Non, je pense encore une fois que l'Europe n'est pas perdue. Je pense qu'il y a des pays qui ont basculé, mais la Hongrie, il y a une magnifique riposte, il faut quand même le voir. Moi, je ne jette pas la pierre à l'Europe. Je vois ce qui est beau, ce qui est fait, y compris le bureau Asie, l'européen. Je trouve qu'il y a des choses qui sont tentées. Encore une fois, il y a quand même des tentatives. Et je dirais une seule tentative, moi, qui me ravit, c'est quand même que le Parlement européen a déclenché l'article 2 du traité de l'Union européenne pour faire pression sur la Hongrie, notamment au niveau de l'état de droit. Je pense qu'il y a possibilité, si on ne diabolise personne, il y a possibilité encore de construire l'Europe. Mais peut-être que Geneviève, vous voulez réagir.
Oui, sur l'Europe, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Et les raisons d'espoir, encore une fois, il faut savoir de quoi on parle. L'Europe de qui ? L'Europe, là on va avoir des élections au Parlement européen. Toutes les décisions importantes sont faites au Conseil de l'Europe, donc ce sont les gouvernements, et puis il y a aussi les peuples européens. Et actuellement, on peut avoir des graves préoccupations quand on voit la composition et l'équilibre des chefs d'État élus. L'Italie, la Hongrie, l'Autriche, etc. On voit que au niveau des gouvernements, il y a de quoi être préoccupé. Et si les tendances qu'ils représentent gagnaient, remportaient une grande victoire au niveau des élections, en prenant le prétexte des questions migratoires, ça c'est le prétexte, mais ils se retrouvent autour de cette question, donc on ne peut pas rester muet. Je suis absolument d'accord que c'est une manipulation de tout réduire à cette question. S'ils gagnent plus de poids, ça sera au Parlement européen, mais c'est surtout le symbole que ça donnera sur le renforcement des droites les plus extrêmes. Alors, comparaison n'est pas raison, mais c'est important de se souvenir de l'histoire aussi. D'une histoire pas si lointaine que ça, sur notre continent. Et donc, ce qu'il faut essayer de voir pour ne pas se décourager, c'est tous les mouvements qui existent dans les sociétés civiles. En Italie, aujourd'hui, il y a à la fois M. Salvini et beaucoup, à commencer par le pape, mais beaucoup de mobilisation, enfin, de gens, d'hommes, de femmes qui, en Italie, refusent ça. Le problème, c'est que ceux qui ont le pouvoir ont aussi le pouvoir des médias et que la lutte est difficile et inégale. Mais dans tous les pays, y compris en Hongrie, dans tous les pays, il y a ces mouvements d'opinion. Et l'enjeu des élections européennes, c'est de ne pas laisser à ces promoteurs, entrepreneurs de haine et de peur, ne pas leur laisser toute la place. Ça, je crois que ça, c'est une responsabilité citoyenne qui nous incombe à chacun. Vraiment.
Nous allons prendre deux questions de plus. Oui. Alors, monsieur, puis madame au fond.
Deux questions et deux bras se lèvent.
Oui. Il y en a un de l'autre côté, mais ce sera pour la prochaine.
Deux questions brèves. À travers l'exposé de la situation que vous nous avez fait, on voit bien qu'il y a des informations et il y a beaucoup de fausses informations. Donc, quelle est la réalité des chiffres des exilés aujourd'hui que nous accueillons en France ? Première question. Deuxième question, on voit bien également le rôle que jouent les médias dans la transmission de la peur ou dans la fabrication de la peur. Alors moi, j'aurais tendance à dire, à me retourner, puisque je suis ici au Centre Fèvre, dans les facultés jésuites de Paris, je veux dire, que font les médias chrétiens, catholiques, pour s'opposer, pour mettre en avant, pour créer des événements pour retourner l'opinion publique. Alors, en disant cela, je fais attention. Il ne s'agit pas de mettre en avant des élites qui nous seraient favorables, mais de mettre en avant des réalisations concrètes et de formuler et de trouver des événements qui mettent en valeur et en évidence cette situation. Merci.
Merci. Puis au fond, oui, voilà.
Bonsoir. Alors, je voulais élargir la réflexion à un autre volet, à savoir qu'il me semble que dans la réticence à accueillir des exilés, il n'y a pas que le racisme, la xénophobie, l'islamophobie, mais peut-être une forme de malthusianisme, une idée que sur un territoire, il y a un nombre de ressources limitées et que trop de personnes qui viendraient sur le territoire, c'est un problème. Alors, je voulais savoir quelle réflexion vous aviez sur ce sujet et comment éteindre les peurs qui sont de cet ordre-là. Merci.
Sur les chiffres, alors je vais bien répondre parce que je les ai apportés. Enfin, je vous donne les sources, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, on va supposer que, voilà. Je pense que c'est bien que vous ayez posé cette question parce qu'il y a une énorme confusion entretenue. Quand on parle des entrées, des personnes étrangères qui entrent en France en une année donnée, j'ai les chiffres 2017. Il y a des entrées légales qui étaient, là en 2017, 262 000 personnes. Entrées légales, régulières, représentées par 91 000 regroupements familiales, dont plus de la moitié des familles de Français. Ensuite, deuxième poste, 88 000 étudiants. Ensuite, on a octroyé 40 000 statuts de réfugiés. Donc, voilà, là, ils sont devenus légaux. Et il n'y a qu'un tout petit pourcentage d'immigration de travailleurs. Parce que pour venir avoir une carte de travailleur, donc, voilà les un petit peu, ça concerne l'immigration légale, 200 000 personnes, 262 000 personnes. C'est en augmentation, très limitée par rapport aux années précédentes, mais c'est en augmentation, essentiellement dû au fait que la France accueille, a octroyé plus de cartes d'étudiants. Ça fait partie du rayonnement de la France, etc. Et c'est une bonne chose, après des années où on avait supprimé et réduit les cartes d'étudiants, et une augmentation qui est due aussi au fait qu'il y a eu plus de statuts de réfugiés, qui est aussi une bonne chose. Je souligne, quand on parle de cette immigration régulière, que la plupart de ces immigrés sont des immigrés qui viennent parce qu'ils en ont le droit à cause du droit international. Donc c'est pas sauf les étudiants. Ça c'est première chose. Deuxième catégorie, ce que l'on appelle les demandeurs d'asile, donc des gens qui viennent solliciter une protection à la France parce qu'ils sont persécutés chez eux ou qui prétendent l'être. Enfin, ils viennent pour cette raison. En 2017, il y en a eu 101 000. Ce qui est en augmentation par rapport aux années précédentes, mais quand on compare ce chiffre avec le nombre de demandeurs d'asile en Allemagne, par exemple, en 2016, l'Allemagne a accueilli, alors j'avais pas les chiffres de l'Allemagne sur 2017, donc je vous les donne pas, mais en 2016, l'Allemagne a accueilli 760 000 demandeurs d'asile et la France un peu moins de 100 000, 85 000. On est dans cet ordre de proportion. C'est en augmentation, c'est pas rien, mais c'est les demandeurs d'asile et auxquels il faudrait rajouter, on n'en a pas parlé, c'est très technique, mais ce qu'on appelle qui sont en procédure Dublin, vous savez ce que c'est ? D'accord. Alors, ce sont des gens qui sont entrés rapidement, il y a un accord qui s'appelle les accords de Dublin entre les pays européens qui dit que toute personne qui C'est le premier pays d'entrée où on a laissé ses empreintes qui est responsable de la procédure d'asile. Ça veut dire que, comme vous l'imaginez, quand on arrive par bateau, on n'arrive pas directement par la Méditerranée, on n'arrive pas directement en Suède, en Finlande, etc. On arrive d'abord en Italie, en Grèce et en Espagne. Et parce que ce sont les pays limitrophes, et d'Italie en particulier, voilà, l'Italie n'en peut plus et maintenant n'en veut plus, donc ils vont d'un pays à l'autre, et on appelle Dublinés les personnes qui sont en France, mais à qui le gouvernement français dit « Ah non, vous ne devriez pas être là, retournez dans le pays d'origine ». Or, ils ne veulent pas y retourner, ils sont ici. Bon, bref, c'est toute une autre histoire. Et puis, il y a aussi, et c'est ceux-là qui font peur, et c'est là où tous les... On n'a pas de chiffres. C'est ceux qui sont hors statut. Parce que ils ont été déboutés du droit d'asile et qu'ils n'envisagent pas de rentrer chez eux. Parce que on leur a pas renouvelé leur statut de séjour. Et parce que ils sont travailleurs sans papier depuis des années, exploités, travailleurs en France, mais exploités. Ce nombre-là, alors la fourchette que tout le monde reprend, c'est entre 200 000 et 400 000. Voilà, on n'a pas d'autres manières d'évaluation. Donc les chiffres, c'est ça. On est devant. Je crois que c'est juste de dire qu'il y a une augmentation du nombre de demandeurs d'asile, qui est à mettre en relation avec l'aggravation des crises géopolitiques autour de l'Europe, dont la France. Ça, c'est la Syrie, voilà, tout ce qui se passe. Ça, c'est vrai. C'est une augmentation, c'est en rien, rien de rien, une invasion. Voilà, concernant les chiffres.
J'ajouterais peut-être juste un point un peu technique, mais qui me paraît important. C'est ce qu'on appelle les mouvements secondaires, les flux secondaires, c'est-à-dire qui sont activés du fait de ces règlements Dublin, mais plus encore, de la loterie qui est devenue le droit d'asile. Pour prendre juste un exemple très concret, très précis, la Belgique ou l'Angleterre ou la Suède considèrent l'Afghanistan comme un pays sûr. Et donc,
l'Allemagne
aussi. Et donc, en réalité, le taux d'acceptation positive, enfin, le taux de décision positive, de reconnaissance, est faible dans certains pays, alors qu'en France ou dans d'autres pays, je crois que c'est 80%. L'Italie, c'est 80%. Donc, vous voyez, c'est un écart qui fait que un Afghan qui n'aura pas pu tenter sa chance en Belgique va retenter sa chance en France. Mais ça, c'est aussi le système européen qui n'harmonise pas les conditions d'asile qui le provoque. Et donc, il y a, j'allais dire, parmi ces 100 000 environ, il y a aussi ces fameux flux secondaires qui sont liés à l'injustice du devoir d'asile. Peut-être un mot sur les médias chrétiens, les médias catholiques. Je voudrais quand même rendre hommage à la Croix, parce que je trouve tout de même qu'il y a une prise de position courageuse. Je suis une grande lectrice, y compris d'ailleurs des courriers des lecteurs. Je trouve que c'est un lieu vraiment de grand courage, hein, parce que je ne suis pas convaincue qu'il y ait, vous le savez, hein, la majorité des catholiques, même s'il y a une zone grise de gens hésitants, beaucoup sont comme les Français, sont hostiles à l'accueil des étrangers en général. Donc, à la différence des protestants qui sont à 70% favorables à l'accueil. Donc, vous voyez, le problème, c'est que par tradition, je pense que les catholiques, hein, ça remonte à une histoire, il faudrait faire une histoire par rapport à l'accueil, ils sont pas très favorables à l'accueil de l'étranger. Hein. Donc, être média catholique sur ce sujet, c'est récolter des coups. Ça, je crois que c'est la première chose. Dernier point sur le matrusianisme.
Sur la question du journalisme, il y a Laurent Grybowski qui aurait souhaité dire un petit mot.
Ah, mais avec grand plaisir.
Que journaliste.
Merci.
Oui, si je peux me permettre de rendre hommage à la vie, parce que j'y travaille,
et je voudrais rendre hommage au travail que nous faisons. C'est bien que vous ayez cité la croix, parce qu'il faut le citer également. Mais honnêtement, je peux vous dire que depuis des années, à la vie, nous avons fait un nombre de dossiers, de papiers absolument incalculables sur la question de l'accueil des exilés. Nous avons planté nos tentes à Calais, nous sommes restés à Calais pendant 6 mois. Nous sommes le seul journal de la presse française à avoir envoyé des journalistes pendant 6 mois en permanence au moment de la crise des réfugiés, des exilés à Calais. Nous faisons en permanence des sujets. J'ai travaillé avec Geneviève Jacques, j'ai travaillé avec Christian Mellon. Nous faisons des sujets pour éclairer nos lecteurs. Alors, je suis heureux que vous ayez rendu hommage à la croix. Voilà, ça aurait été sympa d'y associer la vie quand même. Parce que je peux vous dire qu'on se prend des coups. On se prend beaucoup de coups et que, si je peux me permettre, le problème, c'est pas... Parce que souvent, on pense que les médias sont en bout de chaîne ou en début, je ne sais pas. Vous savez, c'est toujours l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire que les médias eux-mêmes sont partagés. Nos rédactions peuvent l'être, je le dis très franchement, autant à la croix qu'à la vie, et nos lecteurs aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entité homogène, exactement comme ce que vous disiez pour le choc des civilisations, il n'y a pas d'entité homogène des médias face à je ne sais quelle société homogène. Tout ça est extrêmement complexe et c'est un combat permanent, même en interne. Voilà. Aussi bien à la croix qu'à la vie. Parce que les perceptions sont pas tout à fait les mêmes. Et je terminerai, parce que je suis pas venu faire une conférence, mais je terminerai quand même sur l'aspect, il faudrait pas qu'on se quitte ce soir en faisant une confusion, parce que c'est vrai que ça vient un peu parasiter le problème, si je puis dire, en faisant une confusion entre exil et islam. C'est-à-dire que souvent nous réduisons, alors, il y a effectivement, vous l'avez évoqué, peut-être une peur malthusienne un peu derrière, mais il y a quand même le problème du rapport à l'islam aujourd'hui, qui est très problématique, enfin pour les catholiques, hein, pas pour forcément pour moi, c'est pas le cas. Mais je prends un constat, et je pense que cette question du rapport aux musulmans et à l'islam vient énormément parasiter la question du rapport aux migrations, parce que on considère qu'en fait c'est l'islam qui vient nous envahir, ou que ça va poser des nouveaux problèmes de convivence, et voilà. Donc je voudrais aussi saluer, si c'est possible, non seulement JRS Welcome, mais Singa, qui fait un travail formidable, et puis une association, permettez-moi de la citer aussi, c'est pas au niveau de l'exil, mais au niveau de la fraternité, puisque c'est un peu le thème de notre rencontre aussi, c'est Coexister, qui fait quand même un travail absolument admirable, avec des jeunes de 15 à 30 ans, qui sont au taquet, et qui vraiment travaillent d'ailleurs dans les mêmes locaux que Singa. Ce qui est très intéressant, ils sont dans le 11e à Paris, et ils sont dans les mêmes bureaux nationaux entre Singa et Coexister, et je trouve que là, il y a quelque chose, un signe d'espoir aussi. Voilà. Merci de m'avoir laissé la parole. Merci beaucoup.
Oui, juste sur, si j'ai compris la question sur le malthusianisme, ça, c'est une question qui revient souvent en relation au chômage. La barque est pleine, on peut plus accueillir, on n'a pas de travail. Hein, vous savez, c'est cette question-là qui revient. Alors, à partir de préoccupations qui sont réelles. Hein, c'est vrai qu'il y a du chômage, il y a trop de chômage en France. Prendre ça comme un argument en disant, vous voyez, c'est la preuve qu'on peut pas accueillir, c'est confondre c'est considérer que le travail est une donnée fermée, finie. C'est comme un gâteau qu'on ne peut pas partager avec plus de monde. Or, l'expérience prouve, et tous les chercheurs le disent, et je vous renvoie à François Héran en particulier, disent que c'est une manière erronée de concevoir la question de l'accueil en relation avec le chômage, parce que les personnes qui arrivent, aussi participent à la richesse nationale parce qu'ils dépensent, ils achètent, etc. Et bien souvent, ils occupent des emplois qui sont sur des marchés complémentaires du travail. Ils occupent des emplois qui ne sont pas pourvus, parce que aussi ils sont sous-payés ou ils sont peu payés, qui ne sont pas pourvus par des gens qui sont en recherche d'emploi. Et donc, cette concurrence qui vient de cette idée simple, un gâteau, ah, oh, il est fini, si on le partage en plus de monde, on a une plus petite part, c'est une image erronée, simple mais fausse. Économiquement.
Oui, je voudrais juste rajouter un mot. C'est l'expérience d'ATD Quart-Monde, hein, territoire zéro chômeur, qui montre justement qu'il y a, sans tomber dans la concurrence des pauvres, qu'il y a une possibilité d'intégrer, voilà, des personnes exclues.
En créant des emplois.
Voilà, il y avait déjà deux questions demandées ici, et monsieur. Et lui,
Merci. Bonsoir. Alors, nous avons parlé de politique, d'élection, même de constitution en début de soirée. Et nous avons parlé d'accueil dans des familles. On a parlé d'accompagnement, de tutorat. J'aimerais vous écouter un petit peu sur l'approche de la fraternité. Est-ce que vous l'approchez de façon différente en distinguant deux sphères ? Une sphère publique, une sphère privée, ou est-ce qu'il n'y a pas de distinction pour vous dans votre approche? La question est surtout à Madame Albanel, qui connaissait bien Hannah Arendt et l'importance de la distinction pour elle. Alors, si vous pouvez dire un mot sur cette approche.
Merci. Oui, c'est pour apporter une précision sur les chiffres une précision qui me paraît importante quand même. On entend très souvent dire que l'immigration familiale est majoritaire par rapport à l'immigration économique. Or, les 91 000 personnes dont vous avez parlé, Geneviève Jacques, c'est ceux qui ont une carte vie privée et familiale. Le regroupement familial, ça n'est que 12 000. En 2006, Brice Hortefeux avait déclaré dans plusieurs journaux que Brice Hortefeux avait déclaré dans plusieurs journaux que 14 500 personnes étaient venues pour le regroupement familial. Le chiffre officiel était de 22 990. Et lors des dernières élections primaires de la droite, ça a été un chiffre évoqué et le chiffre était de 12 000. Donc, c'est ceux qui ont une carte vie privée et familiale, il y a 11 possibilités. Et le regroupement familial n'est qu'une des 11 possibilités. Et bon, je sais que Yannick Blanc, que j'avais rencontré à la préfecture police de Paris, disait que beaucoup d'immigrés demandaient la carte vie privée et familiale pour pouvoir travailler, parce que c'était plus facile à obtenir et qu'il ne fallait pas payer des taxes en plus que si on demandait la carte économique. Et dans le rapport Attali, il était indiqué que 70% de ceux qui avaient la carte vie privée et familiale travaillaient.
Oui, bien sûr. Oui. Merci. C'est précis.
Merci. C'est un tuteur. Vous voyez, comme force de conviction. Tuteur JRS. Je réponds, et vraiment un grand merci de me poser cette belle question sur Hannah Arendt, parce que, évidemment, vous vous en doutez bien que je me suis posé le problème. Pour le dire en bref, Hannah Arendt n'aimait pas particulièrement la fraternité pour une raison simple. Elle estimait que c'était complètement impertinent en termes politiques. C'est parce que ça venait de la sphère privée, de la sphère familiale. Et je le rappelle, mais dans mon livre, j'aborde un peu ces objections. Elle disait que la fraternité, enfin, le milieu familial, c'était dominé par le pater familias à l'origine, hein, qui avait droit de vie et de mort sur ses enfants et sur sa maisonnée, et qu'en plus, voilà, ça, c'était le modèle qui avait donné après, qui avait été copié pour le roi, hein, qui avait aussi fondé sur ce modèle. Alors, pour tout dire, à un moment donné, je m'en tire parce que j'avais quand même l'arentienne en moi qui sommeille en permanence en train de me dire, tu vas pas quand même faire un livre sur la fraternité. D'ailleurs, je dois le dire pour l'éditeur qui est quelque part dans la salle, au départ, ce livre devait s'appeler « Urgente hospitalité ». C'est moins vendeur, hein, c'est moins joli, donc voilà, ça s'est passé à la fraternité bafouée. Je ne le regrette pas et je m'en tire par une simple redéfinition de la fraternité à mes yeux. J'ajoute que dans les objections, hein, que j'ai entendues par coexister, donc merci d'avoir salué Coexister, que j'admire, et je salue en particulier l'autre ouvrage de Laurent Grybowski sur la fraternité radicale, là, qui est sorti ces derniers jours. Samuel, pardon. Excusez-moi, c'est une affaire de famille, je suis un peu perdue. Je précise que, oui, à travers Coexister, l'objection que j'avoue je n'avais pas imaginée, c'était « Ah oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait des femmes ?» Fraternité, frater, c'est les hommes. Donc maintenant, vous savez, on parle de sororité. Alors, il se trouve que les hispanisants, oui, parlent sororal, ça c'est quelque chose de très courant, mais nous, c'est quand même pas très banal. Mais à Coexister, on m'avait fait remarquer que, voilà, sororité, c'était... Fraternité, ça marchait pas. Donc, pour m'en tirer, j'ai redéfini à la Arendt la fraternité comme la philia grecque, c'est-à-dire l'amitié fraternelle. Et je pense que vraiment, je pense qu'il n'y a pas de grand écart entre l'amitié, qui est pré-politique hein, chez Anna Arendt, et la fraternité. Il faut l'arracher un tout petit peu, mais moi, j'ai pas de mal, parce que l'Évangile nous dit exactement ça, hein, qu'il faut... Qui est ma mère, qui est... Voilà. Celui qui écoute la parole. J'ai pas de difficulté à sortir de la sphère familiale. Il faut simplement faire ce petit travail de ne pas s'enfermer dans la sphère familiale. J'espère que j'ai répondu.
Voilà, on peut prendre une dernière question, puisque nous terminerons à 21h15, si cette dernière question surgit. Sinon, il me reste en votre nom à tous à remercier beaucoup Véronique Albanel et Geneviève Jacques pour nous avoir parlé depuis leur longue expérience avec des mots très justes, très pesés, qui peuvent nous inviter à l'action. Merci beaucoup.
Ah oui, je voulais parler de ça.